Admettons ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Barthas, la radio locale du Sud Lozère. Nous sommes en direct mais uniquement sur radiobarthas.net car nous avons un gros souci technique sur la FM depuis hier, on s'en excuse. Les techniciens viennent aujourd'hui pour réparer ça, donc on espère que demain tout sera de retour à la normale. En tout cas, ça n'empêche pas qu'il soit midi et des poussières, l'heure de cette émission qui s'intéresse à ce qu'il se passe par ici et qui donne la parole aux actrices et acteurs locaux, à toutes celles et ceux qui ont des choses à dire, des messages à faire passer, des annonces à faire. Au programme de cette émission, vous entendrez des annonces justement, celle du préfet de la Lozère qui s'exprimait hier en conférence de presse à Mende pour faire le point sur la préparation de la saison estivale du département. Je serai en compagnie de Nathaël, stagiaire éphémère à Radio Barthas pour vous en parler. Avant ça, nous serons en studio avec Marion Pérignon du campus connecté de Florac qui viendra dresser le bilan de l'année accompagnée de deux étudiants. On écoutera aussi un peu de musique, notamment le choix de Max pour sa chronique la minute de masque. Mais d'abord, nous sommes le 9 juin. Et le 9 juin, eh bien, le saviez-vous, c'est la journée internationale des archives. Ça m'a donné envie de taper Lozère sur la barre de recherche du site de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, source inépuisable d'archives dans lesquelles on peut se perdre pendant des heures. Et voici donc ce qu'on pouvait entendre au journal d'actualité télévisé de 1961 sur la Lozère. Attention, âme chauvine, s'abstenir.
Lozère, misère, dit-on ici. D'immenses déserts de pierre, des steppes où le vent court sans obstacle, hantées seulement par des troupeaux de moutons, car le mouton trouve sa vie partout. Voilà la Lozère. Un département, mais le plus abandonné. Une préfecture de 6000 habitants, la plus petite de France. Si petite, si lointaine, que les lignes de chemin de fer l'évitent, et qu'elle n'est reliée au monde ferroviaire que par une bretelle. Et l'on comprend mieux qu'il n'y ait ici que 16 habitants au kilomètre carré, quand la moyenne en France est de 78. Un pays qui meurt, ou plutôt où l'on ne peut pas vivre. Trop pauvre, trop perdu. Tout est dur, âpre, difficile. Regardez au marché de Florac, ces visages marqués par le vent d'un climat sans pitié, par les travaux et les soucis d'une terre sans bonté. Tout ici a son prix et rien n'est sans valeur. Il faut pour n'importe quoi tant de courage.
Voilà, voilà, donc joyeuse journée nationale des archives à tous.
Midi et des poussières.
Et bonjour Marion Pérignon.
Bonjour.
Alors, Lozère misère, t'as entendu cette archive?
Oui. Oui, bah, y a un peu de vrai, mais heureusement, il y a beaucoup de choses qui se créent et qui font que ce n'est plus complètement d'actualité, ces propos-là.
Voilà, et que même si on est loin, grâce notamment au campus connecté dont tu t'occupes ici à Florac, eh bien, en fait, on peut être loin et à la fois proche de tout, en tout cas pour faire ses études.
C'est ça. Bah oui, c'est un dispositif qui permet quand même d'attirer, je pense, du public et de maintenir la population aussi sur le territoire en permettant de suivre des formations, des parcours d'études supérieures qui permettent d'obtenir des diplômes reconnus tout en restant sur le territoire.
Donc voilà, ça c'est la mission principale du Campus Connecté. Vous accueillez chaque année une quinzaine d'étudiants.
Eh bien, l'objectif était d'avoir à peu près une quinzaine d'étudiants. Cette année, on a eu 26 inscrits.
Ah, c'est donc un gros succès. Ouais. Ça montre qu'il y a un vrai besoin et une vraie attente et que ça fonctionne, donc que les gens s'y retrouvent. Vous pouvez aussi être un lieu d'accueil pour d'autres personnes que les étudiants réellement inscrits au Campus Connecté. T'évoquais juste avant l'antenne, justement, qu'en ce moment, c'est la période pour Parcoursup.
Oui, alors l'idée, c'est qu'on accompagne effectivement des étudiants en formation, mais il y a aussi tout un accompagnement qui peut se faire en amont de la formation, donc aider à l'orientation, aider à prévoir son parcours, son projet de formation. Et dans cette idée-là, effectivement, en pleine période Parcoursup et mon master, qui sont les deux plateformes d'accès à l'enseignement supérieur, si des personnes sont déçues de leurs vœux ou n'ont pas obtenu de possibilités de poursuite d'études, il est envisageable parfois de pouvoir opter pour de la formation à distance via Parcoursup ou mon master. Et dans ce cas-là, je peux aussi aider à réfléchir à ce projet complémentaire-là, notamment cette période de Parcoursup complémentaire et phase complémentaire de mon master également.
Alors, tu disais, cette année, il y avait 26 étudiants inscrits. C'est quoi les profils, les filières? Est-ce qu'il y a des choses un peu qui ressortent ou c'est des parcours très variés?
Alors, en termes de formation, c'est très varié. Ça va du CAP au doctorat, sur des domaines d'études vraiment très variés, anthropologie, psychologie, les langues, des titres professionnels plus, plus concrets sur des métiers comme assistant de direction ou design d'intérieur. Enfin, voilà, c'est très varié en termes de parcours, en termes de profil aussi, même si c'est vrai que sur le campus de Florac, on attire quand même beaucoup de personnes en reconversion professionnelle. Donc, la moyenne d'âge sur le campus, cette année, elle était de 37 ans. Donc, on accueille bien évidemment des jeunes, mais c'est vrai que c'est pas le profil principal qu'on va retrouver au campus connecté de Florac. Donc il y a quand même, je crois, 30% de moins de 30 ans qui fréquentent le campus, mais on a cette particularité vraiment d'attirer beaucoup de femmes en reconversion professionnelle ou en projet de développement de compétences.
D'ailleurs, tu es venue accompagnée donc de deux étudiants à qui on va tout de suite donner la parole. Bonjour David et Dilek.
Bonjour.
Merci d'être venu, d'avoir accompagné Marion. Donc on va un peu s'intéresser vous à vos parcours. Peut-être on commence avec toi, Dilek. Donc toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire au Campus Connecté? Qu'est-ce que tu y étudies? Est-ce que tu fais partie de ces profils de reconversion professionnelle dont parlait Marion, justement?
Non, c'était un rêve que je voulais faire un doctorat et j'avais pas les conditions idéales pour le faire. Et avec l'ouverture du Campus Connecté, j'ai pu m'inscrire et je fais une formation doctorale à distance à l'Université Rouen-Normandie en sciences du langage.
Sciences du langage.
Oui, okay. Je travaille sur la prise en charge orthophonique des enfants bilingues franco-turcs. Et je suis à 800 km de mon université, mais à 5 minutes du campus connecté.
Donc pour toi, c'était la seule manière, en fait, tu n'aurais pas pu faire ce doctorat s'il n'y avait pas eu le campus connecté?
Ça aurait été très difficile, j'aurais été isolée à la maison et ça n'aurait pas été les mêmes conditions.
Et là, tu arrives donc à bien te motiver seule, parce que bon, il y a du monde, il y a d'autres étudiants, mais tu es moins suivie peut-être que si tu étais dans ton université de...
Alors pour une formation doctorale, on est assez autonome. Mais grâce au campus connecté, il y a cette ambiance où on peut partager nos connaissances, s'entraider. Et on a la chance d'avoir une tutrice qui nous guide, qui nous accompagne dans nos démarches. Et ça facilite tout, en fait. Ça booste la motivation et on est content de venir au campus connecté.
Et alors, quand on fait un doctorat, souvent, c'est pour poursuivre ensuite une carrière d'enseignement universitaire. Est-ce que toi, c'est aussi ton projet avec
ce
doctorat?
Pas forcément. Ça sera plus ciblé sur des recherches faites sur les profils d'enfants bilingues franco-turcs dans toute la France.
Ok. Ouais. Donc, ça sera peut-être aussi pour pratiquer en tant qu'orthophoniste?
Non. Ça sera plutôt pour pratiquer en tant que chercheuse, travailler pour un laboratoire.
Pour collecter des données et suivre un petit peu leur apprentissage à ces enfants-là. Mmh. Et ça concerne combien d'enfants, si tu as les chiffres?
Pour la France?
Ouais.
J'ai pas les chiffres, mais dans les grandes villes, on peut facilement dépasser 300 élèves franco-turcs par établissement. Et toute leur prise en charge orthophonique est assez complexe. Et je travaille sur tout ça parce que je suis franco-turque. J'ai enseigné à l'école au primaire et en maternelle et j'ai eu des profils comme ça. Et j'ai enseigné aussi en turc. Et du coup, j'arrive à avoir les besoins qu'ils ont pour l'apprentissage des deux langues et pour que cet apprentissage soit harmonieux et équilibré.
Oui, on peut imaginer que ça pose des difficultés pour les tout petits qui apprennent à parler, de grandir dans deux langues avec des prononciations qui sont très différentes, des façons d'ouvrir ses lèvres, de placer sa langue dans la bouche, tout ça.
Oui. Alors, ça dépendra de son exposition à la langue et la valorisation de ces deux langues, en fait. Ne pas valoriser une et laisser tomber l'autre, et garder vraiment la langue maternelle au centre pour pouvoir ensuite entrer au français à l'école plus facilement.
Oui, surtout qu'ensuite le français il sera entendu partout, alors que la langue maternelle on ne l'a qu'à la maison, donc c'est d'autant plus important de la faire vivre.
Oui.
Ben, merci beaucoup, très beau projet. Merci. En tout cas de doctorat. Toi David, qu'est-ce qui t'a amené au campus connecté ?
Alors moi je prépare un DAEUA, diplôme accès études universitaires, donc en fait c'est pour avoir un bac. Concrètement.
C'est l'équivalent du bac pour adultes quand on n'a pas pu le passer
Exactement.
En sortie de lycée.
Voilà, parce que moi, malheureusement, bon, j'ai quitté l'école trop tôt. Et depuis, disons qu'au niveau professionnel, c'était plus ou moins compliqué. Donc c'est pour ça que je passe ce diplôme pour m'ouvrir plus de portes, on va dire.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a de nombreux emplois où sans le bac, on ne peut pas vraiment
postuler.
C'est ça,
postuler. Exactement.
Ouais. Oui. Et, donc c'est l'Université de Toulon qui te permet de préparer ce diplôme, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Et donc pour toi, c'est pareil. En fait, s'il n'y avait pas eu le Campus Connecté, ça aurait été très compliqué de pouvoir reprendre ses études.
Ah oui, je pense que je ne l'aurais jamais fait sinon. C'était vraiment impossible. Oui.
C'est la proximité qui t'a vraiment,
vraiment
facilité. Et comment c'est venu alors cette envie d'un coup de dire « Ok, il faut que je repasse mon bac
». Alors en fait, concrètement, je n'ai pas de projet professionnel précis, mais disons que je sais ce que je ne veux plus faire. Et donc, je savais qu'avec un bac, avec un diplôme, j'aurais plus de chances. Et j'ai entendu parler à tout hasard par une amie, justement, qui avait possibilité de reprendre des études au campus connecté. À la base, je comptais faire une VAE.
Validation d'acquis par expérience, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Mais qui s'avérait vraiment longue et difficile. Et j'ai entendu parler par... par hasard. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le campus et le DAE.
Et donc tu t'es déterminé. Et donc là, tu vas passer, donc c'est un examen équivalent au bac. Tu vas le passer quand ?
Donc ce sera fin novembre.
Fin novembre.
Ouais, fin novembre sur 4 matières. Donc français, anglais, histoire et initiation au travail social.
Et est-ce qu'il y a, comme il y a maintenant dans le nouveau bac, on en parlait d'ailleurs hier avec Nathaël qui est de la génération nouveau bac, est-ce qu'il y a un grand oral ?
Non, il n'y en a pas.
Il n'y a pas, c'est examen écrit.
Oui.
Et ça, tu peux le faire aussi, ton examen, tu peux le faire depuis le campus connecté de Florac ou va falloir que tu te déplaces à Toulon pour ça ?
Non, je peux le passer à Florac.
Ouais, donc c'est vraiment, c'est vraiment très, très pratique. Bah, oui. Merci à toi. C'est vraiment génial de voir une telle diversité de parcours, ne serait-ce qu'entre vous deux, Dilek et David, qui êtes là et tout ce que ça permet, ce campus. C'est vraiment un lieu vraiment précieux. Et d'ailleurs, il y a un peu un enjeu pour que ça continue, parce que donc c'était là, on arrive un peu à la fin d'un cycle, Marion, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, la première convention avec l'ETAP, c'est un dispositif qui nous permet d'avoir un label délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette première convention, elle durait 5 ans. Donc, on a été labellisé en 2021. On arrive au terme des 5 ans. Donc, on a un gros bilan à produire cette année. Et tout était un petit peu incertain il y a encore quelques mois. Bon, l'État a décidé de ne pas se désengager, de continuer de soutenir ce dispositif.
Ah ça, vous en avez eu la confirmation ?
On a la confirmation que l'État ne veut pas se désengager. Toutefois, on doit quand même répondre à une demande de renouvellement du label. Donc ça passe à nouveau par un appel à projet pour une durée de 3 ans cette fois-ci. Donc potentiellement, on pourrait être reconduit à minima jusqu'à 2029. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a quand même ces étapes intermédiaires qui sont le bilan et le dépôt de la nouvelle demande à faire. Mais c'est vrai que c'est une année assez importante pour nous pour pouvoir renouveler le label 3 années supplémentaires.
Mais est-ce qu'il est possible qu'en fonction du bilan que vous allez fournir, finalement, il vous soit répondu « Ah bah non, on arrête ».
Bah, oui, dans le sens où c'est une demande, c'est un appel à projet, donc on n'est jamais sûr à 100% de ce qui va advenir suite à cette candidature-là. Maintenant, le bilan, il est hyper positif. On a largement dépassé tout ce qu'on espérait pouvoir atteindre en créant ce service-là il y a 5 ans. Donc voilà, normalement, tous les feux sont au vert. Après, effectivement, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais... En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui conditionne l'octroi du label et une grosse partie du financement du dispositif. Maintenant, on pourrait aussi envisager d'autres sources de financement. Enfin voilà, tout ne veut pas dire que si on ne renouvelle pas cette convention, que le campus s'arrêterait, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est assez conscient que c'est un service essentiel et qui... Ça permet quand même à beaucoup d'apprenants de se former sur le territoire. Donc c'est une sacrée offre de service public qui serait dommage que ça s'arrête.
Ça serait dommage, en effet. On espère que ça continuera. Et alors, je sais que vous n'êtes pas non plus vous figé sur le calendrier universitaire classique, mais on imagine qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui s'inscrivent au moment de l'été pour la rentrée, même si on peut s'inscrire toute l'année au Campus Connecté. Oui. Mais est-ce que là, il y a déjà des personnes qui t'ont sollicité pour la rentrée, qui ont... fait des demandes pour s'inscrire, des nouvelles personnes qui n'étaient pas là l'année dernière?
Alors oui, c'est vrai qu'en termes de visibilité pour la rentrée, on a rarement beaucoup d'inscrits, nous, à l'été. Étonnamment sur Flora, que c'est plutôt vraiment à la rentrée que les gens se manifestent. Donc j'ai peu de visibilité sur la rentrée. Toutefois, cette année, il y a quand même déjà 7 étudiants qui poursuivent. Qui sont sur des parcours d'études longs, donc notamment des licences ou des masters ou des doctorats.
Des doctorats comme toi, Dilek.
Donc il y a déjà 7 étudiants qui poursuivent. Il y en a 4 qui sont nouvellement inscrits sur des parcours licence et master. Et il y a à peu près une dizaine de personnes avec qui j'ai échangé ces dernières semaines ou mois pour discuter de leur projet de formation. Donc qui vont soit aboutir s'ils ont déposé des candidatures, soit c'est des projets qui sont encore... en train d'être réfléchi, et effectivement, comme on peut s'inscrire tout au long de l'année au campus, ce sont peut-être des personnes qui s'inscriront dans quelques mois.
Eh ben, on refera peut-être une interview à la rentrée pour annoncer le début de la nouvelle année. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci beaucoup,
merci.
Raphaël.
Merci d'être passé nous voir et bonne fin d'année au Campus Connecté. Et nous, on reste connectés, mais seulement sur radiobartas.net, malheureusement, car la FM ne fonctionne pas et on s'en excuse. On va faire une petite pause musicale tout de suite avec Ino Casablanca, rappeur français vraiment génial, né en Espagne en 2000 de parents marocains. Il emménage en France avec sa famille à l'âge de 12 ans. Il découvre le rap français, commence à faire de la musique tout seul. C'est un autodidacte total. Il mélange toutes les influences musicales dans lesquelles il grandit et ça donne un truc vraiment incroyable. Et en live sur scène, il paraît qu'il est fou et je vous dirai, car je vais le voir en concert ce week-end, je suis trop contente. Ino Casablanca, tout de suite sur Radio Bartas avec le titre Albufera, issu de son EP Tamara.
Mon cœur prend de l'âge, je traverse son bronzage, c'est semblant squelettique. Comme les rochers de Malte, bébé regarde les autres, je crois qu'ils nous parasitent. Encore j'inverse les rôles, c'est elle qui m'baratine. Elle fait une autopsie, elle dit qu'il me faut un psy. Quand elle part, elle me manque beaucoup moins que ma psy. Pourquoi aller en bas, bébé en bas yachi? Mejo il cherche du cash, en bas d'en bas yachi. Elle m'appelle, faut que je dise allô. Demain je me casserai à l'eau. Toi on t'a toujours aimé, on t'a toujours appelé Miyama. Vu la connasse que t'étais, tu m'aurais jamais calculé. Pourtant je suis le même, t'es juste plus la connasse que t'étais. Je crois que ton rapport au passé me dégoûtait. Tu le vis comme si c'était au présent. Baby c'était au présent. Fait tout le monde a remarqué que je suis devenu fou. Albufera. Cet été je me pars à Albufera. Si tu me cherches, je suis caché Albufera. Je vais dépenser toute ma moula Albufera. Yeah. À Albufera, Albufera. Yeah.
cet été je me pars à Albufeira. Si tu me cherches, je suis caché à Albufeira. Je vais dépenser toute ma moula à Albufeira. À Albufeira, Albufeira. En face de ton ego, mon âme poussait des cris que tu refusais d'entendre. Je berçais ton cœur sous ses toiles mis par les anges. J'ai douté toi jusqu'à m'en déchirer le ventre. Affreux sur tes absences, mais quand je vois tes choux briller, je sais plus qu'oublier que tu me regardes plus comme avant. Et moi je me bats pour que ça redevienne comme avant. Tu dis que c'est connu, que c'est juste l'effet du temps. Oh, elle m'appelle, faut que je dise allô. Demain je me casserai, allô. Toi on t'a toujours aimé, on t'a toujours appelé Miyama. Fus la connasse que t'étais, tu m'aurais jamais calculé. Pourtant je suis le même, t'es juste plus la connasse que t'étais. Je crois que ton rapport au passé me dégoûtait. Tu le vis comme si c'était au présent. Baby c'était oppressant. Aïe 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 aïe. Tout le monde a remarqué que je suis devenu fou. Albufeira. Cet été je me pars à Albufeira. Si tu me cherches, je suis caché à Albufeira. Je vais dépenser toute ma moula à Albufeira. À Albufeira, Albufeira.
Midi et des poussières sur Radio Bartas.
Et oui, il est toujours midi et des poussières sur Radio Bartas. Et je vous le disais au début de cette émission, le préfet de la Lozère, Monsieur Gilles Quenet-Hervé, a tenu hier une conférence de presse à la préfecture de Mende pour faire le point sur les enjeux majeurs concernant les prérogatives de l'État dans le département et pour faire le point sur la préparation de la saison estivale. Radio Bartas y était pour vous faire un petit résumé de ce qui s'y est dit. Et sans surprise, la prévention des incendies, c'est un des enjeu majeur pour cet été dans un département dont 46% de la surface est occupée par des forêts. Le préfet a annoncé qu'un dispositif de surveillance renforcé sera lancé dès le 29 juin avec 9 patrouilles terrestres qui pourraient être déployées simultanément chaque jour si besoin. Des patrouilles associant l'ONF, la gendarmerie, l'OFB, l'Office français de la biodiversité et le parc national des Cévennes. Autre enjeu important, la sécurité routière. Quand on sait que 80% des accidents ont lieu entre mai et septembre, la vigilance concerne surtout les motards qui ne représentent que 3% du trafic mais qui ont représenté en 2025 40% des victimes. La préfecture compte agir sur le volet répression avec une intensification des contrôles et sur le volet prévention avec notamment des points d'accueil moto dans des bars et restaurants labellisés avec deux nouveaux points d'accueil qui s'ouvrent cette année à Badarou et à Villefort. Ce qui augmente aussi en été, ce sont les fêtes, les festivals mais aussi les rave parties. Alors on sait à quel point le sujet est brûlant, l'État applique une tolérance zéro et réagit avec dureté voire violence contre ces fêtes comme on l'a vu ces dernières semaines déjà, et bien en Lozère aussi la tolérance est absolument nulle et la surveillance renforcée. On écoute le préfet Gilles Quenet-Hervé sur ce point.
Chaque week-end il y a un risque, on s'aperçoit depuis le début du printemps, chaque week-end il y a un risque d'installation sauvage. Là c'est l'Hérault le week-end dernier, ça a été d'autres départements les week-ends précédents, donc on essaye voilà, de prévoir les choses. Effectivement, et chaque week-end, il y a un risque qui nous oblige à être vigilants et à préparer ce qui pourrait se passer le week-end qui arrive. Alors, on a renforcé le dispositif de prévention, puisqu'on travaille avec l'ensemble des élus, des acteurs du monde agricole, des acteurs économiques et les services de l'État pour essayer de prévenir au mieux ces rassemblements qui sont illégaux et interdits. Les élus sont proactifs, hein, certains nous ont proposé des dispositifs d'alerte, des dispositifs aussi pour bien avoir une bonne connaissance des sites et des lieux. En sectorisant certains lieux de la commune, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir une autre vision des choses. Donc oui, il y a une vraie volonté lausérienne de ne pas accueillir les rave parties, ça fait vraiment consensus, et ce sont tous les acteurs qui travaillent sur le sujet.
Voilà, autre point de vigilance évoqué hier, c'est celui de la ressource en eau. La situation est suivie de près, le comité ressources en eau a lancé sa campagne 2026 avec une première réunion le 28 mai, mais pour l'instant la situation est encore stable, donc aucune restriction n'est envisagée, et en fonction des conditions météo, ce comité se réunira tous les 15 jours ou chaque semaine pour réagir au plus tôt si une tension se fait sentir et prendre des mesures nécessaires. Et une des questions qui émane de cette problématique de la ressource, c'est celle du stockage de l'eau, notamment pour les agriculteurs, comme nous l'a rappelé M. Gilles Quenet-Hervé.
On n'a pas de nappe phréatique finalement, donc on n'arrive pas à stocker l'eau. On est tête de bassin versant, donc en plus, voilà, notre eau part. Et donc c'est une vraie question, le stockage de l'eau. Moi, je tiens vraiment à ce qu'on puisse mettre en place des assises de l'eau avec le conseil départemental pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire. On a peut-être la possibilité, voilà, d'offrir à nos agriculteurs des moyens de pouvoir conserver l'eau. Et ça va faire partie d'une grande réflexion avec l'ensemble des acteurs. Mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas occulter cette question du stockage de l'eau qui est essentielle pour les années à venir, d'autant plus dans une situation climatique que l'on connaît avec un réchauffement, avec peut-être moins de pluie, ou des fortes pluies sur une courte période. Et donc, il y a un moment, il va falloir se poser la question et voir comment on peut travailler tous ensemble pour pouvoir avoir des réserves d'eau l'été. On en aura besoin, ça c'est certain.
Mais voilà, dès qu'on pense au stockage de l'eau, eh bien, on pense aux méga-bassines, sujet qui fait polémique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Parce que ce qui fait peur, c'est évidemment, c'est le sujet des méga-bassines et de tout ce qu'on a pu connaître sur ce sujet ces derniers temps. Mais ce stockage de l'eau peut s'envisager de différentes manières. On n'a pas besoin de faire des méga-bassines. On peut réfléchir à des choses qui soient totalement en adéquation avec la transition écologique, la préservation de l'environnement, et puis quelque chose qui permette à chacun de vivre. C'est pour cette question que... Voilà, cette question, il ne faut pas l'occulter, je pense. Il faut se mettre tous autour de la table, avancer. Et je pense qu'il n'y a pas de réflexion à mener sans partenariat et sans que tout le monde puisse s'exprimer. On va prendre en compte toutes les obédiences, toutes les orientations. Et puis ensuite, on verra. Mais c'est pour ça que je compte vraiment sur ces assises de l'eau pour échanger sur le sujet, partager et trouver des solutions. En tout cas, il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire maintenant parce qu'on a ces besoins en Lozère.
Et à propos d'agriculture, le préfet s'est aussi exprimé sur la crise profonde qui bloque la Chambre d'agriculture et qui a mené à sa mise sous tutelle de la préfecture en novembre dernier, faute de vote sur le budget. Alors pour l'instant, la préfecture exerce un contrôle étroit, mais qui pourrait être renforcé si aucun accord n'est trouvé.
On est en contrôle étroit avec la fixation d'un plafond de recettes et de dépenses mensuelles. J'ai saisi Paris pour passer à une deuxième étape puisqu'il n'y a toujours pas de budget qui a été voté. Et l'étape suivante, c'est le contrôle renforcé avec encore davantage de contraintes pour la Chambre. Une obligation de passer par le préfet pour avoir un accord sur les actions qui sont menées. Donc c'est assez lourd. Et puis, parallèlement, j'espère qu'une solution pourra être trouvée en interne, que les élus pourront trouver un accord et qu'un budget pourra être voté le plus vite possible parce que c'est une situation qui est inconfortable évidemment pour la Chambre, pour les agriculteurs et pour l'État, puisque ça nécessite un gros travail des équipes de suivi, de fixation des différents plafonds. Et donc, moi, je souhaite évidemment que la situation puisse se décanter rapidement et qu'on puisse trouver une solution. Là, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on reste dans le statu quo, toujours pas de budget, et donc ça nous oblige à être très vigilants sur ce qui se passe. Moi, je compte vraiment sur la responsabilité de chacun. Et de se dire, si on passe sur une chambre qui va fonctionner à minima, parce que chaque action devra faire l'objet d'une validation de la part du préfet, on va perdre un temps fou. Et au final, c'est le monde agricole qui va en pâtir. Et ça, ce serait dommage. Donc moi, j'espère vraiment qu'on va trouver une solution et qu'ils vont pouvoir s'arranger et qu'on va enfin pouvoir voter un budget qui conviendra à tout le monde.
Sur l'agriculture, toujours, le préfet a rappelé qu'en 2025, la PAC a représenté plus de 111 millions d'euros injectés directement dans l'économie agricole de la Lozère et que pour 2026, 2290 fermes lozériennes ont déposé leur dossier. Les services de la préfecture espèrent pouvoir commencer les premiers versements à partir du 15 octobre. Nathaël, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Alors tu es avec moi en studio, tu es en stage en ce moment à Radio Bartas et tu étais aussi avec moi hier à la conférence de presse. Et alors on va continuer de parler agriculture parce que le préfet il a aussi longuement évoqué des enjeux liés à la prédation.
Et oui en effet, en ce moment il fait beau, il fait chaud, même s'il y a quelques jours où il a plu. Mais la météo de cet été est propice à la sortie des troupeaux, même s'il y a toujours autant d'attaques de loups malheureusement. Alors pour faire face à ce problème de prédation, l'État essaie de trouver des solutions et finance la défense des troupeaux. Alors le préfet nous a expliqué que les règles de gestion sont en pleine évolution, notamment le fait que le loup a changé de statut en passant d'espèce strictement protégée à espèce protégée, et nous a donc indiqué ce qu'implique ce déclassement et quel enjeu il y a derrière.
Le déclassement du loup, ça permet déjà d'avoir une autre appréhension de la problématique. On sait que la prédation chez nous est un phénomène important avec des impacts très forts sur nos éleveurs, sur leurs familles. Et donc le déclassement a permis ensuite d'avoir une loi, une réglementation qui va faciliter notamment pour les éleveurs l'obtention des tirs de défense. Cette réglementation nouvelle va permettre aussi de prendre en compte les attaques sur bovins. Donc ça aussi c'est important parce que jusqu'ici c'était très peu réglementé. Et donc finalement ce déclassement a permis d'obtenir des avancées. Alors je sais qu'elles ne sont pas suffisantes pour certains hein, parce que le déclassement avait été attendu comme quelque chose qui permettait finalement de faire tout et ce qu'on voulait. Non, il y a une réglementation respectée. Je rappelle que c'est une espèce protégée. Et donc dans le cadre de la réglementation, ça va nous permettre d'avoir une certaine souplesse, notamment dans l'autorisation des tirs de défense et dans les moyens de protection dont peuvent disposer les éleveurs.
Et pour se protéger du loup, les éleveurs doivent se doter de moyens de protection et évidemment adapter leur façon de travailler, ce qui n'est pas forcément évident, mais le préfet constate que ces efforts d'adaptation sont faits.
Au départ, il y avait une certaine réticence parce que certains ne comprenaient pas pourquoi et qu'elle était utilisée. Et puis finalement, au fil du temps, ils s'aperçoivent que c'est quasiment une obligation pour se protéger du loup, pour bénéficier des financements, pour pouvoir aussi être davantage sécurisé. Et donc ça prend. Et nous, on fait la promotion évidemment de ces moyens de protection, des chiens de protection aussi, dans un cadre aussi où il faut protéger tout le monde, puisque les chiens de protection aussi peuvent causer quelques soucis avec notamment les randonneurs. Donc on travaille aussi avec les acteurs du tourisme. Voilà, tout est lié. Mais effectivement, il est important que cette question soit prise à bras-le-corps par tous les acteurs. La Lozère est un des départements maintenant fortement touchés par la prédation.
Alors malgré ces protections, malheureusement, il y a encore des attaques qui peuvent survenir. Mais si les éleveurs perdent des animaux, l'État s'engage à les indemniser.
On a un barème national qui permet de prendre en compte les dégâts sur les troupeaux. Et donc, il y a un barème national, une valeur de chaque animal tué, que ce soit un ovin ou autre. Et donc, on indemnise les éleveurs pour leur permettre, alors pas tout à fait de rentrer dans leurs frais, parce qu'évidemment, il y a aussi des impacts à plus ou moins long terme. Mais au moins, chaque bête tuée, prélevée, est indemnisée dans le cadre d'un constat qui est fait par nos différents agents.
Et quelques chiffres importants à relever. Donc 244 dossiers d'aide ont été déposés en 2025 et la campagne 2026 reste évidemment ouverte au dépôt jusqu'au 31 juillet. Et pour ce qui est des aides à la protection des troupeaux, nous pouvons noter qu'elles ont représenté en 2024 813 000 euros et en 2025 1 172 000 euros.
Eh ben merci beaucoup Nathaël pour ces éclairages, à très bientôt. Et on termine donc avec une annonce un peu plus réjouissante que nous a faite le préfet hier. Une maison des femmes va ouvrir à Mende dans le courant de l'été. Alors peut-être avez-vous vu le film La maison des femmes de Mélissa Godet qui a été projeté en Cévennes par Cinéco et qui retrace l'histoire de la toute première maison des femmes de France, celle de Saint-Denis. Eh bien la Lozère aussi aura désormais sa maison des femmes, ce sera la 31e au sein de ce réseau de maisons des femmes français. La structure sera adossée à l'hôpital de Mende et elle aura pour mission d'apporter un accueil sécurisé, universel, anonyme si besoin, et une prise en charge multidisciplinaire par une équipe constituée d'une secrétaire médicale qui sera formée aux violences sexistes et sexuelles, d'une sage-femme et d'une psychologue spécialisée. Voilà, le préfet nous a dit que la date précise d'ouverture sera annoncée prochainement, on vous en reparlera. Voilà pour ce résumé des annonces de la préfecture de Lozère qui nous ont semblé les plus importantes à vous partager.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières, un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et tout de suite, changement d'ambiance sur Radio Bartas car c'est l'heure de la Minute de Masque. La Minute de Masque, un morceau de musique raconté par Max en une minute, enfin un peu plus.
C'est étonnant, non ?
Et salut Max.
Et salut.
Ben voilà,
et
c'est.
Bonjour.
C'est ta minute, hein. Alors, tu m'as laissé le choix aujourd'hui entre deux ambiances un peu différentes, deux salles, deux ambiances.
Tout à fait.
Donc c'était quoi et quoi, tu peux nous dire? On dévoile les coulisses.
Là, je t'ai demandé si tu voulais du calme avec un morceau de Françoise Hardy. d'ailleurs, voilà, mon ami La Rose, ou un morceau un peu plus speed de Tu la Vioque, ce qui nous quépons. Et en fait, je voulais passer un morceau de Tu la Vioque parce que j'ai vu une de tes publicités que bientôt vous allez faire une émission sur l'amour sous toutes ses formes.
Ah oui, c'est ça.
Et donc, j'ai pensé du coup à Tu la Vioque, qui est quand même une référence pour moi. Enfin, de l'amour. Ils ont fait deux albums. Et c'est des chansons à boire et de cul.
Ok.
Voilà. Et donc là, par contre, ce morceau-là, il parle un peu d'autre chose. Mais par contre, quand vous ferez votre émission, je vous en proposerai un autre.
Ah, mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. On rappelle pour celles et ceux d'entre vous qui ne savaient pas à quoi Max fait référence, on lance une nouvelle émission dédiée à l'amour et aux sexualités sur Radio Bartas. Ça va s'appeler Montée de Sève et la première, ce sera le jeudi 18 juin à 20h. Voilà, soyez à l'écoute. Donc tu m'avais fait voilà ces deux choix. Oui. Et ben moi j'ai choisi, tu t'en doutais je crois,
Françoise Hardy.
Voilà, ouais. Françoise Hardy, mon amie La Rose, qui est aussi bien adaptée pour une émission sur l'amour finalement.
Tout à fait.
Et alors parle-nous un peu de ce morceau. Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu voulais l'écouter?
Je sais pas pourquoi je l'aime vraiment. C'est un peu comme le reste, c'est du feeling. J'ai toujours bien aimé voilà son style, sa voix. Quand j'étais jeune, en fait, je l'ai connu par inadvertance parce que c'était la copine à Dutronc et qu'elle faisait pas beaucoup de scènes. Du coup, elle a toujours été un peu effacée dans sa carrière. Mais vraiment, voilà, elle avait un style et une voix vraiment très à part et aussi une discographie assez fournie. Et c'est un des morceaux qui m'a toujours plu dans ce qu'elle a fait tout au long de sa carrière. Donc, j'ai pensé à ça, voilà.
Et c'est un morceau du début de sa carrière, non? Parce que ouais. C'est 64.
Oui, c'est vieux.
Ouais,
ah oui, c'est... Même moi, j'étais pas né.
Et ben c'est pour dire à quel point. Et donc, c'est ouais. Un peu ce morceau-là qui a vraiment lancé sa carrière, tu dirais?
Ah non, je sais pas. Non, elle avait fait autre chose avant, non, je sais ouais. Pas.
Et ben ouais. on l'écoute, on en reparle après.
On est bien peu de choses et mon amie La Rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon amie La Rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie La Rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami La Rose qui l'a dit hier matin.
Mon ami La Rose de Françoise Hardy, quel beau morceau.
Eh oui, ça nous, on s'aperçoit que le temps passe, c'est... même si on ne veut pas.
Eh oui.
Et en l'écoutant, là, ça me faisait sourire. Et vraiment, j'ai l'impression que ça ressemble, enfin ce morceau-là ressemble beaucoup aussi plusieurs morceaux de l'époque de Marie Laforêt.
Ah, ouais.
J'ai compris pourquoi je l'aimais bien aussi.
Bah, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Marie Laforêt, ouais. C'est un peu grâce à Marie Laforêt que je t'ai rencontré, moi, je pense.
Ouais. tu penses bien, je pense bien, très bien.
Voilà. Ce fameux jour au Volet Rouge où tu passais que du Marie Laforêt, ouais. Et où je t'ai dit, mais Max, viens passer de la musique dans Midi et des Poussières. Et c'est marrant parce que la semaine dernière, on a fait une émission sur la mort pour cette journée qui aura lieu le 13 juin. Comment bien préparer sa mort, penser sa mort, bien anticiper. Bah ça pourrait typiquement être une très belle chanson pour un enterrement.
Ah oui, tout à fait.
Voilà. Ouais. Et bah merci Max pour ce beau moment partagé.
Mais avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Salut. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve demain, même heure, midi et des poussières précises. Et on va parler de soie et de sériculture avec l'association Chemin de la Soie. Et il sera aussi question de cinéma avec Cinéco, bien sûr. À demain.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
Midi et des poussières. Midi et des poussières. Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.